Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Jean Ziegler, l'Empire de la honte. Jean Ziegler, né en 1934, est un sociologue, écrivain, professeur, homme politique, d'origine suisse et l'une des figures éminentes de l'altermondialisme. Il est vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies depuis juin 2009 et il a aussi été le rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies de 2000 à 2008. Dans son ouvrage « L'Empire de la honte » paru en 2005 aux éditions Fayard, il analyse les mécanismes qui président à la reféodalisation du monde et à la soumission des peuples à la puissance et aux intérêts des grandes compagnies privées. Extrait du chapitre 8 au titre ironique « Les droits de l'homme, c'est bien, le marché, c'est mieux ». Estimant qu'il ne pourrait les amener à la raison, c'est-à-dire au respect des principes de la Charte des Nations Unies, Kofi Annan, son secrétaire général, a décidé de négocier un compromis avec les cosmocrates. Il a ainsi élaboré le Global Compact, un pacte général conclu entre les Nations Unies et les principales sociétés capitalistes transcontinentales. C'est le 31 janvier 1999, au Forum économique mondial de Davos, qu'il a rendu publiques ses propositions. Ce forum réunit annuellement les 1000 dirigeants des sociétés transcontinentales les plus puissantes. Pour être admis au club des 1000, c'est son titre officiel, il faut diriger un empire bancaire, industriel ou de services transcontinental dont le chiffre d'affaires annuel dépasse le milliard de dollars. Le pacte global comporte 9 principes. Les principes 1 et 2 traitent des droits de l'homme. Les signataires s'engagent à respecter et à mettre en œuvre les droits de l'homme dans leur sphère d'influence, à s'assurer que leurs propres sociétés ne se font pas les complices d'une quelconque violation d'un droit de l'homme. Les principes 3 à 6 concernent le marché du travail. Les sociétés s'engagent à respecter la liberté d'association et à reconnaître effectivement le droit collectif de négociation des salariés, à éliminer toute forme de travail forcé et de travail d'esclaves, à abolir le travail des enfants, à supprimer la discrimination en matière d'emploi et de travail. La protection de l'environnement et de la nature est évoquée dans les principes 7 à 9. Les sociétés signataires promettent de s'engager avec précaution dans toute activité qui pourrait modifier l'environnement naturel, de prendre des initiatives visant à promouvoir une plus grande responsabilité envers l'environnement et la nature, de favoriser la découverte et la diffusion de technologies compatibles avec la protection de l'environnement. Kofi Annan demandait donc aux nouveaux pouvoirs féodaux d'accepter et de mettre en œuvre le pacte global. Les prédateurs, debout, applaudirent 5 bonnes minutes durant Kofi Annan. Ils adoptèrent son pacte à l'unanimité. En juin 1999, se tint au Palais des Nations à Genève la deuxième conférence mondiale sur le combat contre la pauvreté en présence des représentants de 170 États et de plus de 500 ONG. Kofi Annan y présenta une plateforme intitulée « Un monde meilleur pour tous », contresignée par la Banque mondiale, le FMT et l'OCDE. Cette plateforme complète le pacte, mais le pacte global et son appendice sont du pain béni pour les nouveaux féodaux. Ni le secrétariat général des Nations Unies, ni aucune autre institution n'exerce le moindre contrôle sur l'application pratique des principes qu'ils édictent par les sociétés transcontinentales qui y adhèrent. Les seigneurs signent et le tour est joué. Pour eux, cette signature vaut de l'or. Kofi Annan leur fait économiser des dizaines de millions de dollars de frais de publicité. Chaque société signataire a désormais le droit de faire figurer son adhésion au pacte sur tous ses prospectus, documents publicitaires, etc. et de s'approprier ainsi le logo des Nations Unies. Le 13 avril 2001, le secrétaire général et ses proches étaient les hôtes à Zurich du gouvernement suisse et d'économie suisse. J'ai devant moi une photo de l'agence Reuters parue dans Die Berner Zeitung qui montre un Lucas Mühlemann hilar serrant la main d'un Kofi Annan songeur. Mühlemann était à l'époque le chef suprême du Crédit Suisse First Boston. C'est un des notables de l'archipel des milliardaires. Mühlemann, en effet, est un homme heureux, car grâce à un rapide trait de plume apposé au bas du pacte global, sa banque peut désormais se targuer d'une fidélité exemplaire aux principes les plus sacrés de la communauté humaine. Il en va de même pour Göran Lindahl, à l'époque patron de la première société transcontinentale de métallurgie du monde, ABB. Pour Marcel Ospel, président de la United Bank of Switzerland, pour Daniel Vassella, prince de Novartis, pour le PDG de Royal Dutch Shell, pour le président de Nike, pour celui de la Deutsche Bank, pour ceux des géants de l'automobile Mitsubishi, Nissan, Daimler, Chrysler, Toyota. Le Crédit Suisse a longtemps abrité la plus grosse part du butin du défunt dictateur Joseph Désiré Mobutu, une somme qui excède les 4 milliards de dollars. La banque s'est également longtemps illustrée par le passé, par son soutien actif et obstiné au régime raciste d'Afrique du Sud, ainsi que par le recyclage de millions de narco-dollars provenant de Colombie et par nombre d'autres opérations aussi juteuses que moralement détestables. Elle figure aujourd'hui parmi les banques les plus puissantes du monde. L'United Bank of Switzerland, autre signataire du pacte, fait régulièrement parler d'elle pour sa contribution passive à la fuite des capitaux à partir des pays du tiers-monde. Une grande partie du butin du général président nigérian Sani Abacha, décédé en 1998, s'est retrouvée sur des comptes gérés par l'UBS. Nike est accusé par des ONG américaines de faire fabriquer en Asie du Sud ses souliers de sport par des enfants surexploités. Le grand promoteur du pacte global, le Suédois Göran Lindahl, entretient de son côté d'exquises relations personnelles avec les nababs rouges de Chine, les massacreurs du printemps de Pékin et avec les généraux massacreurs d'Ankara. En dépit de l'opposition des syndicats, des paysans, des ONG, sa société ABB, construite en Chine et en Turquie, de pharaoniques barrages qui provoquent le déplacement forcé et souvent la ruine de centaines de milliers de familles en totale violation de leurs droits et sans compensation financière adéquate. Elles devront rejoindre les bidonvilles sordides de Shanghai, Pékin et Canton. Selon Amnesty International, la Royal Dutch Shell Company ravage par la pollution incontrôlée qu'elle occasionne le delta du fleuve Niger et ruine l'économie du peuple Ogoni. Elle a été en outre l'un des plus fermes soutiens financiers des dictatures militaires successives du Nigeria. Quant à Mitsubishi, Toyota et Nissan, leurs PDG respectifs viennent de fermer, pour des raisons d'économie, des dizaines de cantines ouvrières, des hôpitaux d'usines et des écoles au Japon et dans le monde. Le 24 juin 2004, se sont réunis au quartier général des Nations Unies à New York, sous la présidence de Kofi Annan, les représentants des principales sociétés transcontinentales signataires du pacte global. Sous la pression des ONG, Kofi Annan avança, à cette occasion, une proposition. Ne conviendrait-il pas de créer une autorité internationale de surveillance chargée de vérifier si les signataires honorent leur signature? Horreur et tremblement, un contrôle public, un instrument contraignant de vérification. Mais vous n'y pensez pas. La proposition fut rejetée à l'unanimité. Les cosmocrates n'aiment les droits de l'homme que pour autant qu'ils n'entravent pas la machine à exploiter les peuples.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.